Bouge ton algo avec Moukino.
Et salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On reçoit celui qui, chaque semaine, vient secouer nos oreilles, vient bouger nos algorithmes, vient nous faire découvrir des nouveaux univers, des nouveaux artistes, mais aussi peut-être même une nouvelle vie. Notre algorithme vivant, j'ai nommé l'ami Moukino. Comment ça va, Moukino ?
Eh bien, ça va très bien, Yacine. Ouais,
très heureux de te recevoir cette semaine. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Bouge ton algo, c'est une émission qui vient vous faire découvrir des nouveaux artistes, bouger vos algorithmes avec un algorithme vivant fait de chair et d'os, l'ami Moukino. Et aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler, Moukino ?
Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce moment qui est pour moi très important dans le milieu musical, entre les années 2000 et 2010. Cette période où Internet commençait à être un peu le Internet qu'on connaît aujourd'hui. Le début des réseaux sociaux, de ces plateformes de streaming et d'écoute et de vidéos. Le début de YouTube, de Deezer, Spotify et toutes ces plateformes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Deezer et Spotify. Mais nous, à l'époque, il y en avait plein.
Oui,
j'aime bien dire genre « nous » à l'époque. Ouais. Ça y est, je suis dedans, putain, je veux devenir…
Nous, les boomers.
Nous, les boomers. Non, mais c'est vrai que voilà. Et puis à l'époque, c'était quand même… gratuit. Alors, il y avait tout qui était gratuit, il n'y avait pas de pub.
Tout Internet était gratuit à cette époque.
C'est vrai, mais genre, t'écoutais t'avais pas besoin de payer d'abonnement, ouais, etc. Mais je sais pas comment ils faisaient pour gagner des sous, en fait.
C'est vrai que c'était incroyable cette époque. Bon, après, même les films, à l'époque, il n'y avait pas de plateforme de diffusion, donc je me rappelle qu'on téléchargeait. Ouais. Après, une fois sur deux, c'était un porno allemand, mais quand même, on avait souvent des films gratuits.
Moi, je trouve quand même que c'est un peu une légende, ce genre de truc. Hein,
parce que moi, ça m'arrivait.
Je faisais méga attention quand je téléchargeais et tout des trucs. Moi, à l'époque, je m'en souviens, j'avais été la Play 3 et comme ça, j'avais mon disque dur et tout que je branchais ou ma clé USB que je branchais sur la Play 3 avec genre 50 voilà, attends, je vais me faire arrêter parler
mais j'avais Adopi si tu nous entends on s'excuse.
Ouais, c'est vrai, mais voilà, oui, et exactement, je téléchargeais illégalement, mais c'était voilà, c'était le truc, et j'avais genre des milliers quand même pas mal de films et tout en bonne qualité. Ou pas, des fois, tu avais toujours aussi, tu avais le film avec des sous-titres en russe.
Ah oui, oui. Ou filmé dans le cinéma et tu avais la personne qui se levait en plein milieu du film.
La tête et tout, du gars qui s'arrête en mode, qu'est-ce que ça fait partie du film, ça.
C'était intense.
Mais voilà, donc du coup, alors, on va parler un petit peu de cette petite période, un petit peu, moi j'aime bien dire aussi, toujours un petit peu, j'ai remarqué que je le dis souvent.
Oui.
Oui. Et voilà, donc on écoutait en écoute illimitée. Mais Internet n'était pas encore ce mastodonte de l'écoute. On écoutait encore beaucoup en physique, type CD, radio, concert. Voilà, on allait... hop là, il est 15h. on écoutait, par exemple, on allait manger chez des amis avec tes parents, ou même toi à l'époque, chez tes amis et tout. Et t'avais toujours cette médiathèque, cette étagère de CD, de DVD et tout. Et tu découvrais un petit peu les choses... par ça, et moi j'aimais bien, je suis un peu nostalgie de tout ça, et on peut dire que c'est du nostalgisme aigu. Voilà, c'est une maladie que les boomers de plus de 30 ans ont, je trouve, aujourd'hui.
D'accord.
C'est une maladie que j'ai inventée.
Okay.
J'aime beaucoup ça. Et voilà, donc j'ai envie de recréer un peu et rendre hommage un peu à ces artistes qui ont sorti et qui ont explosé dans ce début des années 2000, mmh, et qui ont aujourd'hui un certain âge, qui sont pas vieux en soi, hein, ils ont entre 40 et 50 ans, mais qui ont un petit peu, je dirais, pas loupé le coche, mais qui ont pas vécu ce boom-là des années 2010, où il y a quand même des artistes et des musicaux et autres qui ont fait leur carrière via ces réseaux sociaux et ces plateformes-là.
Dans le milieu du rap, on appelle cette période-là, tous les artistes qui ont pété dans cette époque, on les appelle les rois sans couronne, parce qu'en fait, ils avaient beaucoup d'écoute, mais comme à l'époque, ce n'était pas cumulé, ce n'était pas retrouvé, utilisé pour tout ce qui était disque d'or, etc., ils n'avaient pas de disque d'or, ils ont eu beaucoup moins de ventes que leurs prédécesseurs, mais ils n'ont pas été estimés à la juste valeur, donc ils n'ont jamais eu les disques de diamant, disque d'or, etc., et aussi, ils n'ont pas eu les royalties, donc les rois sans couronne. Il y a eu 5-6 ans qui ont été très, très compliqués pour les artistes.
Et maintenant, ça va.
Maintenant, les streams,
maintenant,
ça
les
bien.
Streams sont représentés pour les victoires de la musique, etc. Ouais.
Et il y a de l'argent aussi, c'est monétisé, ça leur permet de faire de l'argent aussi.
C'est vrai. Donc voilà, je vais vous parler de ces artistes qui ont personnellement fait ma base un petit peu de mon algorithme, qui est en fait finalement la base de cette émission pour développer un petit peu le reste. Et moi, j'ai redécouvert et découvert des artistes que j'écoutais à l'époque ou que je n'écoutais pas, et que via la recherche un peu d'artistes, j'ai pu après aller vers ces écoutes-là pour vous faire découvrir ça. Donc voilà, mon nostalgisme aigu est là. Moi, j'ai envie de sortir un petit peu de ces lignes de code, de ces playlists auto-créées, de ces émissions aseptisées aussi. Je trouve qu'on a, on a beaucoup d'émissions aujourd'hui très aseptisées dans ces grandes radios ou ces radios qui étaient à l'époque où on pouvait se permettre de faire beaucoup de choses et qui aujourd'hui bah, sont devenues très lisses.
Ouais, pas trouve... Fréquence Mistral, mais oui, t'as raison.
Non.
Tous les autres.
les autres radios. Et voilà, donc voilà, j'ai envie d'un petit peu faire exploser tout ça et explorer un peu cette période-là. Et ben, on va partir pour écouter notre première artiste aujourd'hui, on va parler de Émilie Simon, du titre « Désert », de son album éponyme « Émilie Simon ». Allons-y.
Mon amour, mon âme sœur, je compte les jours, je compte les heures, je voudrais te dessiner dans un désert, le désert.
De la douceur, de la douceur, de la douceur, Mokino.
De la douceur.
De la douceur.
Oui, voici Émilie Simon, artiste et voix reconnue de cette nouvelle chanson française, artiste touche-à-tout, multi-instrumentaliste. C'est un peu une Björk made in France. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, là, c'est vrai qu'on ne dirait pas trop du Björk, ça reste quand même très chanson française, très doux. Mais il faut savoir qu'Émilie Simon, après son premier album éponyme, qui est juste incroyable. Moi, j'adore ce genre d'artistes qui ont étudié la musique. Elle vient pas de nulle part. Là. Voilà, Émilie Simon qui vient de Montpellier, d'ailleurs.
Ah bon.
Voilà. Voilà, pas trop l'accent du sud, hein, mais voilà.
Alors, Montpellier, il y a très peu d'accent.
Oui, si, l'Hérault et tout.
L'Hérault, oui, mais Montpellier, en fait, il y a peu d'accent si tu regardes par rapport.
C'est une ville étudiante.
Ouais,
il y a beaucoup de melting pot un petit peu.
Non, si tu compares au Biterrois, au Narbonnais, au Sétois, c'est vrai.
Les Narbonnais qu'on appelle aussi les faces plates. Ah mais oui, c'est vrai que c'est différent, mais voilà, donc Émilie Simon de Montpellier, etc. Elle a vraiment étudié, elle est à la Sorbonne, à Paris, elle a étudié le courant musical et la musique vraiment en général. Moi, ce que j'aime, c'est son langage musical qui est infini. Après, la réussite méritée de ce premier album, toute sa discographie, c'est juste un voyage où elle se balade de palette en palette musicale en cultivant un personnage, une personnalité bien trempée comme on aime dans cette émission. Moi, j'adore ce genre de personnage. Elle a étudié la musique, comme j'ai dit, artiste touche à tout, et on sent qu'elle ne veut pas rester dans le confort d'un style. Mmh. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien un peu ces artistes-là. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller dans telle ou telle direction. J'aime les artistes qui savent, bah voilà, je suis bon dans tel style, donc je vais aller dans ce style-là et je ferai toute ma vie. Bah, Bob Dylan a toujours fait du Bob Dylan,
ouais.
Tu vois.
Ouais.
Et Emily Simon, après ce premier album-là, on va se dire peut-être que oui, elle a fait tout le temps de la chanson française un peu comme ça, nanana. Non, pas du tout. Quand on va plus loin dans sa discographie, on sent que c'est pour ça que le côté Björk ressort. Elle va aller un petit peu dans l'électronique, elle va aller un petit peu dans le rock, un petit peu alternatif, un petit peu psyché. Elle va aller un petit peu dans quelque chose vachement plus avec... voilà, enfin, moi j'adore, je trouve qu'il faut ce genre d'artiste-là. Et en plus, voilà, c'est les années 2000-2003 quand cet album est sorti. Elle est arrivée via les radios, via les grosses productions un petit peu, les gros labels. Et au fur et à mesure, Emily Simon est allée, par exemple, jouer dans des clubs à New York.
Ah oui.
Elle est allée un petit peu se mettre face à des choses où, bah, d'accord, j'ai un album qui a réussi en France, etc. Mais non, moi derrière, je vais plus loin que ça.
Ouais.
Je vais me mettre un petit peu en difficulté. Et voilà, elle se mue à chaque fois de différents personnages et elle cultive un petit peu tout ça. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de vous mettre en avant une artiste comme Emily Simon qui, aujourd'hui, est pas trop sur les réseaux. Elle a sa fanbase, elle a son public qui lui permet d'aujourd'hui tourner partout en France et en Europe. Et on oublie, moi je trouve que ça manque un petit peu sur notre petit téléphone là, ce genre d'artistes là qui en fait vivent pas via les réseaux, ils vivent via leur travail et leur personnalité. Et ça fait plaisir. Voilà, bon, j'avais surtout envie de vous parler d'Emily Simon comme ça. Je vous propose qu'après Emily Simon, on aille dans une autre tonalité. On va parler de Camille, Ta douleur, si ça vous va. On va écouter ça avec grand plaisir. Camille connue, mais Camille qui a aussi beaucoup, beaucoup de cordes à son arc. Ta douleur.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans le tiède de tes reins? Faut que tu grèves de bonheur ou qu'il change de godasse pour croule. bon entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.
Camille.
Camille. Non, mais moi j'adore parce que tu vois, on parlait de liberté de toute façon avec Émilie Simon juste avant. Là, ça y est, on est sur une artiste d'exception. Mm. On va encore plus loin dans la liberté, je trouve. Et moi j'adore. Franchement, Camille, comme toutes les artistes, de toute façon, qu'on va citer dans cette émission, évidemment. Mais là, on est sur un gros morceau, je trouve. Il y a une voix douce où tu sens qu'il y a cette joie, mais aussi cette folie. Des créations constantes en faisant des compositions avec juste des percussions avec la voix, des sonorités exiguës, bruit de bouche et autres expérimentations toujours savamment dosées, je trouve. Mm-hmm. Donc, perso, je l'ai connu via l'album Le Fil, où il y a du coup Ta Douleur, qui mm-hmm. est, on va dire, un peu l'album, je trouve.
Référence,
exactement. Référence de Camille. Et bien sûr, elle a fait énormément d'autres albums qui sont exceptionnels, mais moi. C'est par rapport à cet album-là que je me référence surtout de Camille. Mais ce n'est pas juste des albums de musique, mais c'est aussi une carrière dans la bande originale de films et animés, comme par exemple Ratatouille.
Ah, je n'étais pas au courant.
Camille, c'est elle qui a fait la bande originale de Ratatouille. Le Festin, c'est elle qui l'a écrit et qui l'a chanté, qui est magnifique. D'ailleurs, Ratatouille, j'ai fait 10 ans de cuisine grâce à ça. Ou à cause de ça, ouais, je ne sais pas. Mais ouais, non, c'est vraiment trop cool. Par exemple aussi, le dernier de Jacques Audiard, Emilia Pérez, mm-hmm. c'est elle qui a fait toute la bande originale, qui a reçu des Golden Globes, etc. Donc, okay. quoi qu'il arrive, Camille a explosé dans les années 2000 et 2010. Et ensuite... non pas via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, etc., même si elle est très écoutée et très vue, elle a une vraie carrière à côté artistique, je trouve, outre que musicienne. Mmh. Elle est une artiste qui est accomplie dans plein de choses, elle est touche-à-tout, elle est actrice, elle est réalisatrice, elle monte des films, elle crée de la musique pour des films, et toujours en plus, quand elle touche à quelque chose, c'est hyper quali, je trouve. Et voilà, donc moi j'adore. Artiste reconnue en France, mais aussi outre-Manche, j'aime ses engagements musicaux, mais aussi ses engagements sociétaux. C'est quelqu'un qui est très engagé, qui fait pas énormément de bruit, mais qui est là, voilà. Et moi, j'aime ces artistes-là qui n'ont pas assez de visibilité dans ce monde qui tourne sur nos petits écrans de téléphone, je trouve. Donc voilà, Camille, continue, fais-nous rêver, ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Et je vous propose qu'on passe derrière à quelque chose d'un peu plus... lourd, avec un peu plus de tension, comme on aime. Mademoiselle K, ça me vexe. Vous allez voir, c'est autre chose.
Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watchy watcha, je dois pas sentir comme il faudrait l'argent et le succès. Et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah 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 ah. Tenue de combat, avec ça vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. J'ai changé plein de fois de messagerie, mais personne m'a encore dit oui. On t'appellera, t'inquiète pas, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça, je dois pas sentir. Sur la vitrine, je veux qu'on me dise c'est pas le cas. bla 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 bla, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça, je dois pas sentir comme il faudrait le money et le succès. Et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Dans les soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, 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 ah.
Une belle découverte. Hein. Ah, je ne connaissais pas du tout.
Tu vois un
ça
peu.
Dépend, attends, j'aime beaucoup.
Ah, Mademoiselle K, c'est. On va voir. Alors, on y est là. Un peu rock là. Ah, un peu
c'est
tension,
beau.
Là.
Il y a une belle voix suave. Franchement, c'est impressionnant.
C'est super. Moi, je comprends pas pourquoi Mademoiselle K, c'est pas une icône du rock français. Tu vois,
ouais,
c'est impressionnant. Et je sais pourquoi. Parce que c'est une femme. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on a eu des bébés brunes qui sont arrivés après elle. On a eu plein d'artistes français qui faisaient un peu le même style, qui ont vachement plus eu d'impact. Que elle. Ouais. Alors, moi, je tiens à signaler, voilà, c'est l'effet du système, quoi. Donc, ouais, je suis engagé. Non, mais oui, voilà, je veux quand même dire les choses. C'est pas, c'est comme ça. On écoute l'album Ça me vexe de Mademoiselle K. C'est pour moi, il n'y a pas une fausse note. C'est tous les sons sont hyper carrés, produits à la perfection. Alors, bien sûr qu'elle est arrivée dans une grosse boîte, c'était gros label derrière, etc. Elle n'est pas arrivée non plus de nulle part. Mais bon, elle a fait quand même aussi beaucoup, beaucoup avant d'en arriver là. Donc voilà. Moi, ce que j'aime avec Mademoiselle K, c'est de la guitare épaisse, de la tension, de la dopamine. On a un petit peu de Radiohead, un petit peu d'Arcade Fire, un petit peu de Franz Ferdinand à la française là-dedans. Et ça, ça fait plaisir. Mais c'est quand même du rock au féminin. Et ça, ça fait encore plus plaisir. Dans un milieu rock où il faut plus de voix au féminin, surtout quand elle sort son album en 2006. Parce que quand même, cette période 2006... C'était à l'époque, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas dans le rock, en tout cas, ces voix-là. Tu vois, on n'écoutait pas assez de voix au féminin. Et Mademoiselle K était là et elle a tout renversé, la scène du rock française. Un petit coup d'aspirateur bien nécessaire, une petite victoire de la musique bien méritée. C'était quand même vraiment cool. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est son côté un petit peu mauvais garçon. Tu vois, on sent dans ses paroles, dans tout ça, elle critique quand même beaucoup les choses, que ce soit le milieu un petit peu systémique, que ce soit aussi dans l'amour, que ce soit dans tout ça. De toute façon, vous verrez, ses albums sont vraiment à chaque fois une pure dinguerie. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en 2015, elle sort un album en anglais. Vraiment sympa, vraiment cool. Vraiment, je l'adore cet album, Angry Dirty Baby. Allez l'écouter car il est juste excellent. Ça lui a valu de se faire virer de sa maison de disques.
Pour quelle raison ?
Qui avait prévenu que si elle sortait un album en anglais, elle était virée. Bah bim, elle a fait un album en anglais. Et c'est ça que j'aime chez elle. C'est que voilà, tu vois, elle arrive et elle dit, ah ouais, vous voulez pas que je le fasse ? Bah je le fais.
Ça, voilà. C'est du rock.
Allez vous faire foutre. Ouais, ça, c'est trop bien. Et moi, je veux dire, c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui dans le système aujourd'hui, qui est très lisse dans notre milieu aujourd'hui de ce petit écran de téléphone. Je trouve que des Mademoiselle K, qui sont aujourd'hui des artistes indépendantes, loin des grosses maisons de disques, des obligations du système dans lequel elle fut aussi, parce qu'elle a quand même grandi grâce à ça, ben, aujourd'hui, elle continue à faire des albums hyper qualitatifs via des financements participatifs. Donc, en fait, elle utilise, en plus, je trouve, les réseaux sociaux et Internet de bonne manière. C'est-à-dire qu'elle va produire, elle fait toujours de la musique, mais en plus, avec l'aide, et elle fait participer ses fans et les gens qui la soutiennent. Et moi, je trouve que c'est vraiment un cercle vertueux.
Ah, bah, c'est génial.
Donc, voilà, partie... pareil, on est loin des réseaux sociaux où des millions d'écoutes et des milliers de personnes qui la suivent. Elle est quand même là, elle a quand même une vraie base à elle. Mais non, mais je trouve qu'elle utilise ça d'une bonne manière. Elle se sert de sa passion pour faire déguster les gens qu'il aime et pour ce qu'elle est. Une vraie artiste rock française, indépendante, qui nous manque tant, je trouve, en ce moment.
Voilà. On la réécoutera pour pas qu'elle nous manque.
Mais oui, voilà, avec grand plaisir à aller voir. Et puis surtout aussi, si vous voyez Mademoiselle K sur les affiches et tout, qui passe dans une scène et tout, pas loin de chez vous, allez-y parce que ça dépote. Hein. Franchement, ah, okay. c'est une vraie expérience. Et puis voilà, bah, c'est comme ça qu'on suit et qu'on soutient les artistes. Ouais, c'est en bien. Allant à leurs concerts. Et voilà, moi, voilà, c'est le seul conseil que je vous donne. Mademoiselle K, merci. Tu as vraiment permis avec cet album Sam Vex et ta démarche. De garder un petit peu cette essence de l'artiste indépendant.
Ouais, j'ai écouté avec attention, j'ai écouté en tout cas cet album avec attention.
Oui, carrément. Et puis même l'album en anglais et puis tout ce qu'elle a fait, c'est parfait. Allez-y. Je vous propose que derrière ça, on va écouter notre dernier artiste de la chronique, Émilie Loiseau, L'autre bout du monde, avec grand plaisir.
À l'autre bout du monde.
Et impeccable, t'as vu, petite redescente. On redescend un peu de rythme, mais on redescend pas dans les engagements. Émilie Loiseau, c'est une artiste engagée. C'est sûrement l'artiste qui me correspond le plus dans ses idées. Moi, j'aime beaucoup Émilie Loiseau. C'est sûrement l'artiste la moins connue de toutes de tous les artistes qu'on a parlé dans l'émission. Et c'est bien dommage, mais je pense aussi que c'est parce que bah, elle a aussi des idées et un engagement qui peut peut-être un petit peu gêner certaines maisons de disques et le système en fait qui est de surproduction quoi. Et moi, ce que j'aime avec Émilie Loiseau, bah, cet album, L'autre bout du monde, sorti en 2006, comme d'habitude, tout le temps, souvent dans ce genre d'artiste, c'est souvent un album qui casse tout, c'est le premier. Ou le deuxième, comme pour par exemple Camille, où c'était le fil, c'était pas le premier, mais il y a souvent un album qui te fait sortir à un moment donné, qui te fait arriver un peu dans cette autoroute un petit peu de la célébrité, quoi. Mmh. Et Émilie Loiseau, voilà, L'autre bout du monde, ce titre en particulier, a eu son petit effet effervescence où tout le monde a un peu écouté Émilie Simon. Pourquoi les gens qui s'appellent Émilie, ils ont réussi en fait.
Beaucoup d'Émilie dans l'air.
C'est vrai.
Émile Louis aussi. Non.
Faut savoir, oui, hein, Yacine, humoriste.
Pas toujours respiré. Faut aussi le dire.
Non mais des blancs, c'est compliqué à gérer. Hein. Mais voilà, moi ce que j'aime aussi chez elle, c'est aussi ses collaborations. Émilie Loiseau, putain, j'ai vraiment envie de dire Émilie Simon, ouais. C'est quoi ? Émilie Loiseau a fait énormément de collaborations. C'est ça que j'aime aussi chez elle, c'est voilà, ces artistes qu'elle choisit souvent. On a Dionysos, je sais pas si tu vois un peu le groupe Dionysos,
ouais.
Exceptionnel. Ils avaient fait un album qui s'appelait La mécanique du cœur.
Ouais, quand j'étais petit.
Alors, non, ça c'est Song of Jedi, mais c'est un de leurs sons les plus connus.
Ouais, c'est ça que je me rappelle de
Dionysos. Mais ils avaient fait un album, La mécanique du cœur, où c'était vraiment une ambiance très à la Burton. Tu vois, burtonien, tu
ouais.
vois l'univers et tout. Donc voilà, ils ont fait tout un film, tout un album. Ils ont fait même un animé qui s'appelle La mécanique du cœur, qui est super ouais. beau, qui a été fait du coup par le chanteur de Dionysos qui s'appelle Mathieu Malzieu, je crois, ou un truc comme ça. Énorme. Donc voilà, elle sait s'entourer. Olivia Ruiz, Arthur Ashe, Daniel Waro, super chanteur de La Réunion, Les Ogres de Barbac ou Benjamin Biolay par exemple.
Okay.
On est vraiment dans le gratin, un petit peu de gauche, on va le dire clairement, de la chanson française. Et moi, j'aime beaucoup ça. On est en équilibre entre la mélancolie, le côté un petit peu désabusé des choses, mais toujours avec une voix de velours et des albums qui s'enchaînent depuis les années 2000, toujours avec des hauts et des bas au niveau de reconnaissance, mais elle est toujours là. Et moi, j'aime qu'elle a toujours un cap, dire ce qu'elle pense, les problèmes sociétaux, je sais pas, sociétal ou sociétaux d'aujourd'hui.
Les problèmes sociétaux,
les problèmes sociétaux d'aujourd'hui, les révoltes en cours, le dérèglement de cette société qui se perd en gardant toujours de l'espoir en nous. Mmh. C'est ça, Émilie Loiseau. C'est des chansons un petit peu désabusées, toujours un petit peu à critiquer ou en tout cas être dans ce qui se passe aujourd'hui, les révoltes, mais avec toujours une once d'espoir. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ces artistes-là, engagés. On en manque, je trouve, aujourd'hui, dans ces petites boîtes de téléphone, de ce genre d'artistes qui ne cherchent pas la reconnaissance, mais juste vivre de sa passion en prenant de vraies positions.
Mmh.
Et ça, c'est beau. Voilà. Et comme vous avez pu voir dans cette chronique, j'ai parlé essentiellement d'artistes féminins. Je n'ai pas voulu trop le dire au début, parce que c'est le but un petit peu, c'est que ce soit des artistes féminins ou masculins, ce sont avant tout des artistes qui sont avant tout engagés aussi. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu mon nostalgisme aigu, cette émission et aujourd'hui. J'ai voulu parler un petit peu de ce, je trouve qu'il y a des fois des petites problématiques aujourd'hui. Donc bien sûr qu'on a une ouverture avec les réseaux sociaux. On peut faire tout aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier que prendre des positions et des belles positions humaines et citoyennes, c'est très important. Mmh. Et je trouve qu'on en prend de moins en moins.
Ouais.
Et quand on en prend, on est un petit peu mis dans une case un petit peu de huluberlu.
Ouais, ouais. Wokiste maintenant, on dit.
Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste être humain. C'est ouais, juste ouais. être humaniste. Et voilà, j'avais envie de faire une petite chronique un petit peu humaine,
ouais.
À connotation féminin.
Et rappeler que la France est le pays des droits de l'homme. Hein.
Exactement. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Mmh. C'est avec grand plaisir de vous retrouver. Peut-être pour une chronique, on va parler peut-être d'artistes humaniste.
Ouais, bah écoute, voilà. Ça serait grand ça plaisir. Serait en tout cas, c'était un plaisir d'écouter toutes ces artistes aujourd'hui sur ton émission et de faire la découverte de certaines pour ma part. Et on aura plaisir à te retrouver sur une prochaine émission. Merci, Moukino.
Mais merci à toi, Yacine.
Excellente journée à toutes et tous sur Fréquence Mistral ou ailleurs.